Bonjour à tous et bonjour à toutes. À quelques heures ou jours de la fête de Rosh Hashanah, on a le plaisir de recevoir avec nous le rabbin Aharon Eliashef. Il est évidemment le rabbin de Amira, au-dessus de chez nous. Bonjour, monsieur le rabbin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
Est-ce que ce matin, le réveil a été dur, puisqu'on sait que les Ashkenazes ont rejoint les Sfarades dans le Sirot? C'est quoi les Sirot, au fait? Pourquoi on se lève si tôt?
Alors là, c'est vraiment un scoop.
Ah.
Parce que...
On se lève si tôt ou les Sirot?
Le fait que les Ashkenazes ont rejoint les Sfarades,
ah,
déjà maintenant, non, c'est un scoop.
Ah.
Non, on va rejoindre nos amis Sfarades dans 2 semaines, je pense.
Ça veut dire que les Ashkenazes ont moins à se faire pardonner que les Sfarades?
Bah,
la différence entre un mois et une semaine?
Il y a probablement une grande frustration, il devrait y avoir une grande frustration chez les Ashkenazim de ne pas pouvoir, dès le mois d'Eloul, dès le début du mois d'Eloul, pouvoir commencer à faire tchouva.
Ils peuvent.
Oui et non. Ça veut dire... théoriquement, ils peuvent. Mais si vous prenez la manière dont c'est exprimé dans le Shulchan Aruch, il y a marqué que effectivement on a l'habitude de se lever pour dire les slichot, etc. Et pour les Ashkenazim, il y a marqué va minag bnei Ashkenaz einoken.
Ah.
Le minag Ashkenaz, ce n'est pas ça.
D'accord.
Sous-entendu, on se demande est-ce que ça veut dire, mais il faut pas le faire. C'est-à-dire c'est pas ça le minag. Ou c'est juste de dire non, le minag c'est pas ça, mais en vérité, ce serait bien de le faire aussi.
Mais je vois que dans les Shivot en Israël, on fait ça à la nuit. À partir de minuit jusqu'à 1h du matin, il n'y aurait pas moyen de le faire en France, à Strasbourg?
Alors ça, franchement, c'est une excellente question. En vérité, moi, mon rêve depuis des années, c'est de faire les Slichot, comme on fait en Eretz Israël, et surtout le premier jour des Slichot Ashkenaz, c'est de faire ça le soir, faire par exemple un grand Melave Malka, et après ce grand Melave Malka, après les Slichot, ce serait vraiment très très très, très beau, quoi. Le problème, c'est qu'il y a un problème de halakha par rapport à ça.
Ah bon?
Oui, c'est que on peut peut-être un peu s'arranger, mais tous les décisionnaires sont assez virulents sur le fait que il ne faut pas faire les slichot dans la première partie de la nuit. Donc, on ne peut les faire qu'à partir de Chatzot. Donc, en Eretz Israël, c'est facile, parce que Chatzot, ça doit être 11h30, minuit. Donc voilà. Mais ici, c'est à peu près 1h du matin, 1h30 du matin. Donc, il faudrait faire tenir les gens jusqu'à 1h30 du matin, et faire les slichot, on pourrait peut-être même un petit peu commencer avant, mais ça a l'air d'être vraiment très, 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 très important de faire après Chatzot.
D'accord. Je voudrais qu'on parle de cette fête de Rosh Hashanah dans l'idée où, du jour au lendemain, Dieu devient le Dieu miséricordieux, et tout de suite après, à Rosh Hashanah, pendant 10 jours, il devient juge. C'est-à-dire qu'on change toute la perception qu'on a de Dieu, non?
C'est-à-dire, miséricordieux, puis juge, juge miséricordieux, c'est ça que vous voulez dire. Il y a juge dur et juge...
Voilà, c'est ça, clément.
Exactement, oui, effectivement, c'est tout Rosh Hashanah, c'est cette opération-là. C'est-à-dire, on dit heureux le peuple qui sait faire que Akosh Bohu, qui au départ est dans une certaine attitude par rapport au peuple juif et par rapport d'ailleurs à l'ensemble du monde, tout d'un coup,
il devient juge, il devient sévère.
Voilà, non, au départ, c'est ça. On dit au départ, avant les tkiyot, en vérité, c'est le chauffard qui fait ce changement-là.
Ah ouais.
C'est le chauffard qui produit ce changement. Et Akosh Bohu dit, voilà, moi au départ, le matin de Rosh Hashanah, Vous êtes tous... Ouais, non, au contraire, vous êtes tous morts.
Ah.
Vous êtes tous morts. Mais je vous donne le joker pour faire que je puisse vous juger ou de manière extrêmement dure, et a priori vous êtes tous morts parce que vu l'état du peuple juif, on va pas aller très loin, ou alors je vous donne les moyens de faire que je change mon attitude et que je regarde les choses
un peu différemment. Mais est-ce qu'on peut faire changer l'attitude de Dieu ? C'est-à-dire, on pose souvent la question entre Rosh Hashanah et Kippour. Est-ce que le décret que Dieu donne, on peut le faire changer uniquement par la tefila ? D'ailleurs, il n'y a que ça, d'ailleurs.
Entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, certainement. Après Yom Kippour, c'est déjà une grande discussion dans la Gemara, je crois, Kiddushin.
Non, mais par le principe, c'est possible de changer les décrets ?
C'est possible, peut-être à titre collectif.
Les atténuer, en tout cas.
Hein ?
Atténuer. Changer, c'est...
Non, c'est une fois qu'il y a une fois que ça a été décidé, normalement, on ne peut plus revenir en arrière.
C'est ça.
Et il y a une grande discussion là-dessus, si quand même le tzibour peut faire que ça revienne quand même en arrière, malgré tout.
Mmh. D'accord. Je voudrais qu'on passe à quelque chose qui est très étonnant dans cette fête de Rosh Hashanah, outre que le moussaf dure très longtemps, mais ça, on va peut-être l'expliquer tout à l'heure. Il y a une idée très proche entre Rosh Hashanah et la Akedat Yitzhak. D'ailleurs, en tout cas chez moi, on lit l'histoire de Yitzhak, la chanson, la fameuse chanson, avant de se mettre chauffard. Pourquoi il y a un rapport si proche entre cet événement-là et la fête de Rosh Hashanah ?
Parce qu'il y a disons, on peut le voir de deux manières. Il y a l'Akeda du point de vue d'Abraham et l'Akeda, donc ce qu'on appelle la ligature d'Yitzhak, et l'Akeda du point de vue d'Yitzhak. Dans Rosh Hashanah, il y a les deux. Quand c'est du point de vue d'Yitzhak, c'est cette capacité qu'il faut avoir à accepter de mourir. Rosh Hashanah, c'est très important de dire, voilà, Kadosh Baruch Hu, tu me juges et je suis.
Si je dois mourir, je dois mourir.
Et si je dois mourir, je dois mourir. Et d'ailleurs, comme on dit dans la Gemara, il aurait mieux fallu que l'homme ne soit pas créé. Ce serait sûrement, certainement mieux que je meure. Mais puisque toi, tu désires la vie, alors je demande la vie, non pas pour moi, parce que moi, je pense que ça ne vaut pas le coup, mais je demande la vie parce que toi, tu m'ordonnes de vouloir vivre. Puisque tu m'ordonnes de vouloir vivre, alors à ce moment-là, je veux vivre. Donc ça, c'est du point de vue de Yitzhak Avinu, cette capacité à accepter de mourir pour pouvoir se repartir sur quelque chose, sur un point zéro. Et il y a le point de vue d'Avram, que c'est la fameuse bracha des Zichronot, qui est basée sur Avram Avinu, et au moment de la Akedah. Et on dit, de la même manière que Avram a réussi au moment de l'Akeda à maîtriser les sentiments très forts de Rachamim qu'il avait pour son fils et qu'il a été kovesh, il a maîtrisé ce sentiment-là. De la même manière, toi, fais la même chose pour nous sur le modèle d'Abraham.
Alors, c'est quoi le message alors ? C'est soit soumis et suis ce que te dit Hachem ?
C'est-à-dire ?
Vous dites qu'Abraham est allé au bout de ce que Dieu lui a demandé, donc soumission, et de l'autre, accepter le décret d'Hachem de mourir.
Voilà, chez Abraham, c'est une question assez complexe. C'est pas véritablement la question, je pense, de la soumission, c'est le problème des mitzvot. Ça veut dire, est-ce que quand je fais les mitzvot, c'est quand je fais ce que Akosh Bokhu m'ordonne de faire, est-ce que je le fais pour mon confort personnel ? Ce que nous faisons tous, quoi, en général. Ou est-ce que je le fais parce que c'est vraiment ordonné par Akosh Bokhu ? Or, il y a dans le sacrifice d'Yitzhak une manière, mais très extrême, puisqu'il s'agit d'Avraham Avinu, mais qui est un modèle pour nous à dose homéopathique, qui est de montrer que les mitzvot Les lords d'Hachem se font, non pas pour son confort personnel, parce qu'il n'y avait aucun confort personnel pour Abraham à tuer son fils, mais le fait vraiment parce que c'est ordonné par Akadosh Baruch Hu. Et ça, cette différence, elle est très importante. Et pendant toute la vie qu'on a sur Terre, où on fait des mitzvot, alors on oscille entre... on fait des mitzvot, voilà, qu'est-ce que ça peut me rapporter finalement, les mitzvot? Et, mais est-ce que je les fais quand tout d'un coup, non seulement ça ne me rapporte rien, mais en plus ça me met en difficulté?
Alors, ce qui est important aussi dans cette fête de Rosh Hashanah, et je voulais en revenir, c'est sur le moussaf. Il est terriblement long. En plus, la répétition est aussi importante que le béachid. Qu'est-ce que ça dit? Pourquoi c'est si long?
Parce que, on peut expliquer, hein. J'ai bien expliqué ça. Mais disons que...
Il paraît, surtout, c'est Ashkenaz. C'est très long.
C'est surtout Ashkenaz.
Ouais.
Parce que nous,
il me semble pas
qu'on sonne aussi qu'on fait les tkiot à l'intérieur du moussaf.
Ah.
Voilà. Donc, long. La chazara, vous parlez de la chazara.
Oui, évidemment.
La chazara
du moussaf.
Voilà. Oui, bon, ça, la chazara, c'est quelque chose. C'est un peu. Ah, ça dépend. Hein. On a rajouté des nigounim, on chante beaucoup. Voilà, ça c'est un peu autre chose. Mais la tfila elle-même, c'est vrai qu'il n'y a jamais une tfila aussi longue, et d'ailleurs, elle est très importante, il faut un peu la travailler
mais
avant.
C'est quoi? C'est les korbanot que faisait le Kohen Gadol le jour de Rosh Hashanah?
Non. Notre question est bonne. Pourquoi c'est si long à ce moment-là? Pourquoi la tfila, la prière, est si longue à ce moment-là? Ben, on pense que le...
Parce qu'on a quand même 2 heures derrière. Hein.
On a 2 heures avant la tfila, avant.
Ouais. Quand on arrive à l'heure.
Mais on pense que le, si vous voulez, on pense que l'homme, un homme, comme on dit dans, par exemple dans la Mishnah de Arba Avot Nezikin, les quatre sources de dommages, on dit, il y en a un, on dit Mavé, qu'est-ce que c'est Mavé, la dent, etc. On dit c'est l'homme qui est en train de prier. C'est-à-dire que l'activité fondamentale de l'homme, et comme on voit sur aussi une Mishnah dans Brachot, sur les Chassidim Arishonim, en vérité, on pourrait ne faire que prier. C'est-à-dire, ça pourrait être ça la seule activité, prier. Et donc l'homme, quand il prie, et surtout à Rosh Hashanah, il est cette espèce d'homme, avant le fait de devoir faire, après la faute d'Adam Arishon, alors l'homme doit rentrer dans le monde concret, mais avant ça, les choses concrètes se font par ailleurs, c'est le Gan Eden, et l'homme prie. La seule activité de l'homme, c'est prier. Et donc Akadosh Baruch Hu veut nous juger au moment où l'homme est le plus à son avantage. Et l'homme, quand est-ce que l'homme est le plus à son avantage? Quand il prie, d'une part, mais quand il dit que Akadosh Baruch Hu est Meler, Akadosh Baruch Hu est roi. Et donc ici...
Il est roi ou juge?
Il est roi. Et roi, un roi, ça...
Ça
si
juge.
Si je considère... Ouais. Voilà, un roi, ça a le droit de vie et de mort. Ça veut dire, si je considère bien, vraiment qu'Akadosh Baruch Hu est roi, qu'il a le droit de vie et de mort sur moi, donc j'accepte de mourir pour lui. Et donc la tfila, plus le fait qu'on dise qu'Akadosh Baruch Hu est roi, plus le fait de dire, de faire ce souvenir, parce que Hachem dit, je vais me souvenir de vous ce jour-là, mais débrouillez-vous pour que je me souvienne de vous dans de bonnes conditions.
Donc on oriente. Je ne comprends pas. Tout le monde est loul. On y dit, c'est le moment de faire des demandes parce que Dieu est avec vous. Il est avec vous dans le champ, vous lui demandez ce que vous voulez, et 2 jours après, il nous a oubliés.
Ce n'est pas exactement ça, ça revient à la première question. C'est pourquoi les Sfaradim ils font les slichot à ce moment-là. C'est qu'il y a un terme qui revient toujours, c'est le mot « et ratzon ». Être Hatson, c'est-à-dire c'est un moment favorable. On considère que la nuit, la fin de la nuit, est un moment favorable. Mais ça, toute l'année, ça n'a rien à voir avec les slichot. Donc toute l'année, en réalité, on pourrait s'instituer toute l'année que à ce moment-là, slichot ou autre chose, mais qu'à ce moment-là, on fasse quelque chose. À part ça, il y a un événement historique qui a fait que ce minhag chez les Sfaradim est devenu un minhag, c'est quelque chose d'historique, ça n'a rien à voir, c'est le fait que Moshe Rabbeinu, pendant 40 jours du mois d'Eloul, plus 10 jours du mois de Tichri, pendant les 40 jours du mois d'Eloul, il est monté chercher les deuxièmes tables de la loi. Et on dit que ça, c'est un Et Ratzon. C'est un moment où Akosh Baruch Hu veut. Le Et Ratzon, c'est on peut faire toujours, on peut faire tshuva, on peut vouloir s'excuser, mais est-ce qu'Akosh Baruch Hu veut ça? Est-ce qu'il a décidé qu'il accepterait? Ou il dirait non, vraiment,
mais
t'es trop mauvais.
Mais Hoshana et Kippour, c'est bien d'eux qu'il a institué.
Voilà. Il a dit je veux.
Ah voilà,
je
donc,
veux.
Voilà.
Je veux. Donc, à ce moment-là, puisque tu veux, c'est difficile de rien faire. Akosh Baruch Hu dit je veux, et moi je fais rien. Donc, on comprend bien ce minak des Slichot, parce que c'est, on dit c'est un moment, un Et Ratzon, donc il y a un double Et Ratzon, de la fin de la nuit, plus cette période où Moshe Rabbeinu était là, à récupérer les tables de la loi, le peuple juif était en train de faire tshuva. On dit que c'est un Et Ratzon, donc Akosh Baruch Hu dit je veux. Donc, on comprend que,
on le fasse,
voulant faire quelque chose, on se soit mis à faire tshuva à ce moment-là, c'est historique même, avant d'être un minag.
La seule mitzvah de Rosh Hashanah, c'est d'écouter la sonnerie du shofar. C'est pas super compliqué comme mitzvah. Ou c'est compliqué?
Ben, comme on voit à quel point on n'écoute rien pendant toute l'année, devoir écouter
mais
pour une fois.
C'est nous réveiller, faire du bruit. C'est quoi cette signification-là? D'ailleurs, il y a une question que je vous pose dans le même style. On est en train de se faire ratati ou se repentir et on chante des chants joyeux en criant, etc. C'est pas un peu...
Alors, là, c'est deux questions.
Ah.
Première question, parce que le jour de Rosh Hashanah, il ne faut jamais dire ratati. Le jour de Rosh Hashanah, ce n'est pas un jour de tshuva dans le sens... comme Yom Kippour, où je dis ce que je fais de mal. Je dis, au contraire, ce que je fais de bien.
D'accord.
Ça veut dire, ça c'est très important, Rosh Hashanah. À part ça, les slichot joyeuses, ratati, etc. Bon, mais ça, c'est un peu le tempérament sfarad, d'être toujours très heureux.
Ah, mais vous aussi, vous avez des chants, non?
Oui, mais nous, on est très tristes, nous. C'est-à-dire, nous, c'est plutôt...
Alors, revenons pour ce qu'on a de commun, la sonnerie du chauffard. C'est fait pour nous réveiller, vraiment?
Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est fait pour nous réveiller.
Il y aura une autre explication?
Je pense que ça ne réveille plus personne. Le chauffard ne réveille plus personne.
C'est fait pour quoi?
Il n'a jamais réveillé grand monde, disons, dans nos générations. Avant, le chauffard, pour une raison à définir, avait un effet, avait un véritable effet. Est-ce que le chauffard du jour de Rosh Hashanah est un chauffard pour nous réveiller? C'est pas sûr du tout.
C'est quoi l'explication?
Peut-être le chauffard
vous
d'avant.
Avancez. Alors pourquoi on sonne le chauffard si ça sert à rien?
Non, je beaucoup. C'est assez simple. C'est comme on l'a expliqué. C'est, je vous dis, voilà. Si tu veux...
Vous me jugez. Je peux rester chez moi tranquillement à faire mes occupations. Ah, voilà, quoi, le jugement, il passe, il passe. Alors, pourquoi on a institué une mitzvah, deux jours, un repas? Ça me...
Par exemple, les femmes, elles sont dispensées de la mitzvah de chauffard.
Ah bon?
Elles n'en font pas un plat sur le chauffard. Hein. Je veux dire...
Les femmes sont... Exemple d'écouter le chauffard.
Ah ouais, totalement. Totalement. C'est bien, c'est sympathique de venir.
Pourtant, il y a beaucoup de femmes qui viennent pour écouter le chauffard.
Voilà, c'est sympathique de venir pour écouter le chauffard. Mais disons que c'est pas... la tefila, je pense, pour une femme, est beaucoup plus importante que d'écouter le chauffard. Mais à part ça, pour revenir à votre question, c'est le chauffard lui-même, il est là pour... opérer, ce dont vous avez parlé, ce changement, ce qu'on appelle Mikissé Din, le Kissé Rachamim. Pourquoi le chauffard fait cet effet? Ça, c'est une vraie bonne question. On aura un petit peu de temps à la développer, mais c'est ça, toute l'histoire de Rosh Hashanah, c'est de comprendre ça. En quoi le chauffard? En quoi les sonneries du chauffard? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les sonneries du chauffard qui fait cet effet? Moi, ma mitzvah, c'est juste d'écouter. C'est tout. C'est pas de sonner, c'est d'écouter ça. Écouter ce changement. ça veut dire être sur la longueur d'onde de ce changement, donc forcément me demander, mais en quoi, pourquoi on m'oblige à écouter, qu'est-ce qu'il y a ici, et donc à étudier le sujet de ce pourquoi j'écoute.
Sursana est une fête où il y a deux jours, en France et en Israël. C'est la seule fête où Israël est le diapason de la diaspora ou le contraire. Pourquoi ? C'est quoi la raison ?
En Shoshana, c'est très bon, parce que voilà, c'est des raisons techniques. Un petit accident qui est arrivé un jour de Rosh Hashanah et on a institué qu'on en faisait deux. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est que vous ne savez jamais quand est-ce qu'est le début du mois si des témoins ne sont pas venus pour vous dire qu'ils ont vu la lune. Or, le particularisme de Rosh Hashanah, c'est justement une fête où on ne voit pas la lune. Donc, il y a eu un petit accident de parcours qui a fait qu'on a institué que, par exemple, Rosh Hashanah, on pouvait, des fois, ça durait une heure.
Ah bon.
Une heure de Rosh Hashanah, oui, parce que les témoins arrivaient ce jour-là, ils disaient on a vu la lune, il ne restait plus qu'une heure, donc il y avait une heure de Rosh Hashanah, point. Donc c'est une fête qui techniquement, par rapport
donc, à... Donc Dieu peut juger en une heure.
Voilà, maintenant, cette histoire même, toute cette notion de jugement le jour de Rosh Hashanah, comme vous l'avez bien dit, peut-être que très longtemps Rosh Hashanah, ça n'était pas le Rosh Hashanah que nous vivons. Que Rosh Hashanah, c'était la mitzvah de sonner du shofar au final. Terminé. Donc oui, en une heure, on pouvait sonner du shofar. Maintenant, tout ce qu'on a mis autour de Rosh Hashanah, ça, petit à petit, ça y était sûrement, mais peut-être de manière plus diffuse et pas aussi forte que nous on le fait maintenant, qu'on a plus le Beit HaMikdash, par exemple.
Est-ce qu'avant de Rosh Hashanah, on doit se préparer autre que des sirotes? Il y a des choses à faire, il y a où on rentre dans la fête comme on rentre dans les fêtes.
Bah, on voit justement ce qu'on dit, c'est qu'on a tous... bien sûr, il faut se préparer, disons d'abord à écouter, puisque la mitzvah c'est d'écouter le shofar. Donc comme je l'ai dit, on n'écoute pas beaucoup pendant l'année, pas grand-chose.
C'est du vécu.
Voilà.
Hein, c'est du vécu.
Bien sûr. Bien sûr, c'est du vécu. On ne parle qu'avec son vécu. Et donc, on se prépare à... On se réinterroge sur soi-même. Ça veut dire, qu'est-ce que... Puisqu'on vient juger... On vient juger l'homme, nous dit-on. Donc, on se dit, qu'est-ce que je
suis... C'est l'homme ou les êtres vivants?
L'homme.
L'homme.
L'homme. Donc, on se demande, on se réinterroge. Qu'est-ce que je suis? Est-ce que quel est pourquoi je suis sur Terre? Qu'est-ce que je dois faire? On se pose des questions très existentielles sur soi-même.
Le Rabbi Seba qui disait à Rosh Hashanah, il faut s'engager pour aller plus loin, pour être mieux. C'est aussi votre vision des choses?
Alors, ça dépend des gens. Il y a des gens, des fois, il faut qu'ils fassent moins. Ils en font trop.
Ouais.
Oui, le problème de c'est l'histoire de Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est de faire sur ça hier, c'est que c'est à la carte. C'est-à-dire, il y a des gens, il faut qu'ils en fassent moins. Il y a des gens, il faut qu'ils en fassent plus.
Ça veut dire quoi, faire moins? Je ne comprends pas.
Bah, il y a des gens, par exemple, ils sont au-dessus de leur niveau, ils veulent faire des choses qui les désespèrent.
D'accord.
Mais ce n'est pas toi de faire ça, ce n'est pas ton rôle. D'abord, tu te connais, toi, tu sais qui tu es, tu veux faire le 100 mètres en 9 secondes. Et tu te désespères de ne pas faire le 100 mètres en 9 secondes. Mais mon pauvre, c'est vraiment dommage de désespérer pour ça. Fais le 100 mètres en 3 minutes et tu verras, ce sera ça ton avoda, ton travail de sportif. Dans la Torah, c'est la même chose, c'est-à-dire quand on dit que voilà, il faut se transformer, etc., c'est toujours en fonction de ce qu'on est soi. C'est-à-dire c'est à l'intérieur de ces problématiques. Il y a des choses qui sont des fautes pour les uns, qui ne sont pas des fautes pour les autres, qui sont des erreurs pour les uns, qui ne sont pas des erreurs pour les autres. En vérité, c'est quelque chose de très, très individuel. Il ne faut jamais écouter un espèce de message global sur la tchouva, sur... etc. C'est extrêmement, extrêmement personnel. Et donc, il faut faire très attention.
Et pourtant, on dit souvent que le tzibour est très, très primordial. Ça veut dire quoi, le tzibour ou l'essentiel, c'est le tzibour ou soi-même?
C'est une très, très bonne question de Rosh Hashanah, ça. Et bien expliqué par Rav Volbe, d'ailleurs, dans les Chours. C'est parce qu'il y a une petite énigme dans la Mishnah. C'est quand on dit, on juge chacun à titre individuel, un par un, mais en même temps. Un par un, mais en même temps.
C'est du Macron, ça.
Voilà. Ouais. Exactement. Ouais. Et donc,
qu'est-ce que ça veut dire ?
Comme pour Macron, qu'est-ce que ça veut dire ?
D'accord.
Un par un, mais en même temps. Alors, une des explications, c'est dire un par un, parce que c'est toi,
bah,
en tant que toi, on te juge, pas en tant qu'imitateur des autres, mais toujours toi par rapport à ce que tu fais dans le monde, à la nécessité qu'on a de toi dans le monde. C'est-à-dire comment tu t'es inscrit dans le monde. Un peu comme ce que dit le fils du Nefesh HaRaim, c'est-à-dire qu'on dit on est créé que pour les autres. C'est-à-dire on est créé que pour ce qu'on peut faire pour les autres. Mais on n'est pas créé pour ne pas être soi. On est créé pour être soi-même, apportant quelque chose aux autres. Mais pas apportant quelque chose aux autres en imitant un autre qui apporte quelque chose aux autres. Et donc il y a une espèce de cette petite contradiction ici, seul, mais par rapport aux autres. Donc effectivement, seul, parce que moi, c'est moi, on veut ce que je suis moi, mais par rapport au monde, puisque a priori je suis là pour, j'existe pour ce que j'apporte aux autres, donc moi par rapport au monde, les deux à la fois.
Une petite question, en une minute si vous pouvez, le lendemain, normalement, il y a le jeûne de Gedalia. Cette année, pour le calendrier, le jeûne est déplacé au dimanche. Il y a une importance, il y a un rapport entre Rosh Hashanah et ce jeûne.
Je pense qu'il y a un rapport avec Yom Kippour. Ah. C'est un peu justement ce que je viens de dire là, bon, un peu par hasard. C'est, la problématique de Gedalia, elle est incroyable. C'est qu'on reproche à Gedalia d'avoir tué un certain nombre de gens. Et comment tu peux reprocher à Gedalia d'avoir tué un certain nombre de gens alors que c'est Gedalia qui a été assassiné? Donc c'est un comble. Gedalia est considéré comme ayant tué des gens et d'un autre côté, on dit que c'est lui qui a été tué. Comment est-ce qu'on répond à ça? On dit Gedalia, on l'a prévenu. On lui a dit, tu sais, voilà, il y a quelqu'un qui fait un complot contre toi, etc. Et Gedalia, par tzidkout, par droiture, mais il faut corriger, par excès de droiture, n'a pas voulu écouter du tout. On dit à Gedalia, tu as tué des gens. Pourquoi? Parce que ton excès de tzidkout a fait qu'on t'a tué, et à cause de toi, il y a eu une révolte, etc., etc. Et des gens étaient tués. Si tu avais été là, ils n'auraient pas été tués. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que la première chose sur laquelle on jeûne après Rosh Hashanah, ou genre où il faut être top, 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 c'est sur quelqu'un qui était trop top, 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 top.
D'accord.
Donc, intéressant à réfléchir.
Monsieur le rabbin Adiachef, merci beaucoup. Et Shana Tova.
Agitur, Shana Tova.